Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Et oui, il est 6h avant minuit, jeudi 15 janvier 2026. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Et je vous rappelle que votre radio préférée vous propose de gagner une place pour un spectacle du festival Autre Mesure de Rennes. On vous propose de participer au concert Stimmung. Maintenant, je le prononce bien, maintenant qu'on a reçu le programmateur du festival. Stimmung du compositeur allemand Stockhausen par l'ensemble Oxymore. C'est à la chapelle du conservatoire de Rennes le dimanche 25 janvier prochain à 15h. Pour découvrir ce concert, il suffit de rentrer le bon mot de passe qui est une note. Rappelez-nous s'il vous plaît autour du plateau. Quel est le mot de passe ?
Vas-y Estelle, c'est ton moment.
Si bémol.
Ah, presque.
Non, majeur.
Oui, si bémol majeur, parce que le concert Stimmung est à propos de... d'une certaine note qui est si bémol majeur, voilà. Donc pour rentrer, enfin pour choisir le bon mot de passe, rendez-vous sur c-lab.fr. Tout de suite, le flash d'une autre romane.
Aux États-Unis, les tensions se poursuivent autour des actions de la police de l'immigration, l'ICE. Une semaine après la mort de René Goose, une nouvelle personne a été tuée hier, le 14 janvier, par un agent de cette police. La victime, d'origine vénézuélienne, se trouvait sur le territoire américain en situation irrégulière. Ces faits ont lieu une nouvelle fois à Minneapolis, dans le Minnesota, et ont provoqué de vives réactions chez les élus locaux qui dénoncent des pratiques jugées violentes et disproportionnées de la part des forces rattachées au ministère américain de la Sécurité intérieure. Cette affaire intervient dans un contexte diplomatique tendu, 10 jours après l'arrestation de Nicolas Maduro, ancien président du Venezuela, par les autorités américaines accusées de narcoterrorisme. Un doute sur une info, un concept, un mot ou un événement inconnu, besoin d'une synthèse sur un sujet pour écrire une disserte, le réflexe pour assouvir notre besoin de connaissances, c'est bien souvent de se rendre sur Wikipédia. L'encyclopédie universelle numérique, créée le 15 janvier 2001, fête aujourd'hui ses 25 ans. On revient avec Héloïse sur ce quart de siècle passé, mais aussi sur l'avenir d'un site qui est probablement l'un des outils les plus fidèles et utiles d'Internet.
Alors, les plus fiables d'Internet.
Effectivement, je me suis rendu compte en lisant.
Et ce qui est certain, Romaine, c'est que c'est un des sites les plus consultés, en tout cas, pas moins de 15 milliards de fois par mois. Je ne sais pas à quand remonte la dernière fois que vous avez utilisé Wikipédia autour de la table.
Tout à l'heure.
Probablement tout à l'heure aussi.
Ouais, bah moi aussi. Moi, en tout cas, la grosse fois dont je me rappelle, c'était avant-hier. J'ai découvert, grâce à la plateforme, les détails du massacre de la ville de Lidice en République tchèque, qui a été commis par des nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'en avais jamais entendu parler avant. Wikipédia, c'est le fruit de l'imagination de deux Américains, un développeur, Larry Sanger, et un homme d'affaires, Jimmy Wales. Wiki, comme le mot rapide en hawaïen, et pédia, provenant du grec paideia, ou instruction. Leur création repose sur 5 piliers. Wikipédia est une encyclopédie. Wikipédia recherche la neutralité de point de vue. Wikipédia est publié sous licence libre. Wikipédia suit des règles de savoir-vivre. Et Wikipédia n'a pas d'autres règles fixes. Wikipédia, c'est 65 millions d'articles en plus de 300 langues, mais aussi et surtout 250 000 contributeurs et contributrices bénévoles pour écrire, relire et corriger.
Et cette dimension collaborative, c'est vraiment un des aspects essentiels de cette encyclopédie, Héloïse.
Tout à fait, Romane. En fait, Wikipédia est le magnifique enfant né d'une utopie de l'Internet associatif, géré par une entreprise à but non lucratif. C'est une encyclopédie gratuite à laquelle tout le monde peut contribuer. Cette gestion communautaire pourrait décrédibiliser l'outil, mais il n'en est rien, parce qu'il fonctionne merveilleusement bien depuis 25 ans. Géré par des citoyens et citoyennes anonymes, Wikipédia parvient à rendre accessible à toutes et tous une information fiable. Alors, comment ça fonctionne ? Déjà, chaque info doit être sourcée et vérifiée grâce à un système de référence qui est similaire à celui utilisé dans les articles académiques. Ensuite, les éditeurs et éditrices bénévoles du site s'engagent à présenter les faits d'un point de vue neutre. On atteste les très nombreux débats entre membres qu'on peut relire sur chaque article dans l'onglet « Discussion ». Les corrections y sont longuement décortiquée et toute tentative d'influence idéologique est passée au radar. Cela a pu par exemple amener des internautes à débattre pendant des heures et des heures sur le meilleur titre d'un article sur le yaourt. Précision importante, chaque modification de chaque page est consultable dans un historique. L'encyclopédie se base donc sur le consensus de personnes issues de milieux et de sensibilités politiques différentes, ce qui favorise la neutralité de l'information produite. C'est comme ça que Wikipédia a pour l'instant survécu aux fake news, à la polarisation de nos sociétés et aussi à l'intelligence artificielle. Je ne vais pas m'étendre sur les attaques d'Elon Musk, qui juge Wikipédia trop à gauche et a lancé sa propre plateforme, Grokipédia. Ni sur l'interdiction de l'encyclopédie sous certains régimes autoritaires. C'était le cas en Turquie jusqu'en 2017 et ça l'est toujours en Chine.
Cette utopie numérique est donc bien réelle mais fragile.
En effet, les débats collectifs entre humains et humaines sont encore privilégiés à l'intelligence artificielle par la plateforme. Pourtant, Wikipédia pourrait bientôt faire face à une pénurie de bénévoles. En 2015, on comptait 180 administrateurs et administratrices réguliers en France. Aujourd'hui, ils et elles sont 140. Si l'utilisation de l'IA est encore interdite pour la création d'articles, la fréquentation du site a baissé de 8% au printemps 2025 par rapport à l'année précédente. Les internautes iraient plus souvent interroger directement des robots conversationnels comme ChatGPT. Mais il faut souligner que ces outils d'intelligence artificielle vont chercher leurs infos en ligne et sont donc nourris en grande partie par Wikipédia. Le propriétaire de l'encyclopédie a d'ailleurs annoncé aujourd'hui des partenariats avec Microsoft, Meta et Amazon ainsi qu'avec le français Mistral pour l'entraînement de leurs IA. Les intelligences artificielles vont donc s'informer sur Wikipédia quand Wikipédia, elle, s'appuie sur des personnes bien réelles allant chercher leurs sources hors ligne. Ce qui fait bien de Wikipédia et des humains et humaines, la colonne vertébrale de la connaissance numérique mondiale, on l'espère pour encore longtemps.
Merci Héloïse, on le rappelle, Wikipédia est le fruit d'une entreprise à but non lucratif et fonctionne grâce à des dons, donc n'hésitez pas à soutenir le site. En Argentine, les feux de forêt continuent de se propager dans plusieurs régions du territoire. Les autorités locales évoquent un départ de feu volontaire après une intervention humaine délibérée, notamment après la découverte de traces de gaz inflammables sur certains sites. Sur les réseaux sociaux, des théories complotistes circulent, accusant notamment des Israéliens, d'être à l'origine de ces incendies. Ces accusations s'appuient sur une théorie ancienne appelée le plan Andinia, selon lequel il existerait un projet visant à créer un nouvel État juif en Patagonie. Une théorie sans fondement dénoncée par les autorités qui alerte sur la diffusion de discours complotistes et antisémites dans un contexte de forte tension internationale. Ce matin, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense à l'Élysée. Il était consacré à la situation en Iran, marquée par une contestation massive depuis fin décembre 2025 et aux tensions autour du Groenland, territoire sous souveraineté danoise. Le Groenland est au cœur d'enjeux stratégiques majeurs dans l'Arctique, notamment en raison de ses ressources naturelles et de sa position géographique, et est actuellement convoité par le gouvernement de Donald Trump. Une quinzaine de soldats français ont été déployés et sont actuellement présents à Nuuk dans le cadre d'une mission européenne, alors que la France et ses partenaires européens surveillent de près les prises de position américaines dans la région. Dans l'actualité politique et culturelle, le député Rassemblement National Mathias Renaud a présenté les Transmusicales de Rennes comme un festival de musique d'artistes transgenres dans le cadre du vote du budget 2026. Cette déclaration visait à justifier un amendement proposant de supprimer des subventions à certaines structures culturelles jugées comme idéologiques et militantes. Une affirmation fausse puisque le festival est consacré aux musiques actuelles et à la découverte d'artistes émergents sans lien avec l'identité de genre des participants. La déclaration a suscité de nombreuses critiques dans les médias et sur les réseaux sociaux. L'amendement a quant à lui été rejeté par la commission des finances le 9 janvier et a ensuite été retiré par le député et ne sera pas défendu devant l'Assemblée nationale. Direction Saint-Jacques-de-la-Lande, maintenant à Rennes, à bord d'un avion pas comme les autres. Le Veli Electro, un appareil 100% électrique. Il produit zéro rejet de carbone et ne produit quasiment aucune nuisance sonore. Aujourd'hui, il sert à former les pilotes et à initier le public à l'aviation électrique avec l'école AirSchool, un appareil qui ouvre peut-être la voie à une aviation décarbonée. Roman est monté à bord du Veli Electro.
Sotel Golf Bravo X-Ray, un VIS électro, deux personnes à bord, au parking Acre.
Le décollage approche, il ne reste plus que le feu vert de la centrale. Dans l'habitacle exigu, Mathieu, le pilote, règle les dernières commandes sur un cockpit à la pointe de la technologie.
En gros, là, je connecte le moteur aux batteries. Et je vérifie qu'il n'y a pas de message d'alarme en fait.
Le Vélis Electro est un petit avion biplace, le premier certifié 100% électrique. Il vole grâce à deux batteries, ce qui lui permet de ne produire aucune émission de carbone en vol. Autre point positif, une fois dans les airs, l'appareil ne dépasse pas les 60 décibels, soit à peine le bruit d'un aspirateur. Même le décollage est plutôt calme. L'appareil est aujourd'hui utilisé pour des vols d'initiation et pour la formation des pilotes. Fabriqué en Slovénie, le Vélis Electro a vu son autonomie doubler depuis sa première version. Pour Nicolas Rousseau, le gérant de l'école de pilotage Airschool, c'est déjà un pas important vers l'aviation décarbonée.
Comme pour l'automobile, on peut être un peu sceptique. Aujourd'hui, l'avion électrique, il ne remplit pas 100% du cahier des charges d'un pilote. Pour autant, il remplit 50% de sa formation. Et pour le coup, on met cette solution en place parce qu'on y croit. Une partie de la formation en décarboné, c'est toujours à prendre.
La seule limite, pour l'instant, l'autonomie. L'avion peut voler jusqu'à 45 minutes. Pour Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique des transports, l'intérêt est surtout de réfléchir à la manière de remplacer le pétrole dans l'aérien. Pour lui, l'aviation électrique restera limitée dans son potentiel de décarbonation.
Le poids de la batterie va faire que la taille de l'avion ou encore les distances qu'ils pourront parcourir sont assez limitées par rapport à ce qu'on a comme usage commercial aujourd'hui du transport aérien. Donc sur certaines applications très ciblées, comme par exemple sur de l'apprentissage du pilotage d'avion, ça peut être intéressant, ça peut permettre de remplacer le pétrole. Par contre, sur de l'aviation commerciale, on sait qu'au mieux, ça restera qu'un marché vraiment de niche pour certaines petites distances et plutôt pour des avions avec assez peu de passagers.
L'appareil est loué à la société brestoise Green Aerolease, pionnière de l'aviation décarbonée. Au total, l'entreprise a importé 27 avions en Europe, dont une quinzaine en France et deux en Bretagne, un à Brest et un à Rennes.
Un reportage de Roman Hubert, toujours à Rennes. Une manifestation de soutien au peuple iranien est prévue ce samedi. Les organisateurs souhaitent relayer la voix des Iraniennes et des Iraniens mobilisés contre le régime dans un contexte de répression violente, d'arrestations massives et de restrictions des libertés publiques. Cette mobilisation locale s'inscrit dans un mouvement international plus large de solidarité avec la population iranienne. La crise hospitalière se poursuit en France au CHU de Rennes. Une vingtaine de soignants se sont mobilisés hier devant le service des urgences durant une trentaine de minutes pour dénoncer leurs conditions de travail. Cette mobilisation fait suite au décès de deux patients sur des brancards le week-end dernier et vise à alerter une nouvelle fois sur la saturation chronique du service. Une moyenne de 246 passages quotidiens entre le mercredi 7 janvier et le mercredi 14 janvier contre 175 à la même période il y a un an, mais également un manque de personnel et l'épuisement des équipes soignantes. Les professionnels de santé appellent les pouvoirs publics à prendre des mesures rapides pour garantir un accès aux soins dans des conditions dignes.
Merci beaucoup Romane, j'espère qu'on pourra entendre ta voix dans un nouveau flash bientôt.
Et bah j'espère aussi.
À la prochaine alors.
À la prochaine.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Les midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Une interview sur la paillette, ça ne pouvait être que pour Estelle. Ce soir, nous vous emmenons à La Paillette, à Rennes, un lieu culturel emblématique qui mêle spectacle, pratiques artistiques et actions citoyennes. Pour parler de la saison 2026, nous recevons Aude Chalemel du Roisier, habillée d'une robe au motif léopard, programmatrice ado-adulte et coordinatrice des pratiques amateurs à la MJC La Paillette. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, avant de parler programmation, est-ce que vous pouvez nous présenter le lieu pour ceux et celles qui ne le connaissent pas ?
Oui, alors La Paillette, c'est un lieu qui se trouve dans le parc Saint-Cyr, au bout du mail François Mitterrand. On a deux bâtiments, un ancien lavoir qui se trouve le long de l'eau, où on a pas mal de salles d'activité et puis les bureaux de l'association de La Paillette. Et puis le théâtre qui se trouve côté rue du parc, où là on a une belle salle de spectacle et puis des salles de répétition et de travail au sous-sol.
Donc La Paillette, c'est un lieu décrit comme un lieu engagé. Comment cet engagement il se traduit dans vos choix artistiques et vos actions culturelles ?
Alors on essaye sur la programmation de spectacles d'avoir différentes entrées à thématiques qui agitent, avec des thématiques qui agitent un peu notre société. Donc, on essaye d'avoir des sujets variés et engagés, que ce soit de par les sujets ou alors aussi sur les formes qu'on propose. Des fois, il y a des partis pris un peu plus audacieux que d'autres. Et puis, c'est aussi une forme d'engagement que d'avoir ces partis pris-là, des engagements artistiques, voilà, qu'on peut retrouver dans la programmation.
Et aussi dans la programmation, on peut retrouver des artistes émergents, locaux. Comment La Paillette accompagne-t-elle ces artistes-là ?
Alors oui, on est missionné sur le soutien à la création du théâtre en Bretagne. Donc on accompagne 4 projets par an, 4 spectacles par an, de compagnies qui sont à, je dirais, un endroit un peu charnière dans leur parcours de compagnie. Pas complètement émergente, c'est pas en général pas leur premier projet, mais qui sont sur un passage de marche. Alors après, on voit ce qu'on veut derrière cette notion-là de passage de marche. Et puis aussi, on propose des espaces de travail, des mises à disposition de studios de répétition pour des compagnies qui n'ont pas forcément encore engagé qui ne sont pas encore engagés dans un processus de coproduction ou de soutien un peu institutionnel. Mais voilà, il y a des espaces de travail qui sont mis à disposition pour ces compagnies-là aussi.
Et cette année, on peut retrouver quel projet ?
Alors cette année, on accompagne 4 compagnies. Le spectacle Bastard, qu'on a accompagné en coproduction, qui joue ce soir à La Paillette et demain. Et puis on a accompagné aussi, donc ça c'est une compagnie, le théâtre Piba qui nous vient de Brest, Thomas Cloarec et Christophe Lemaine, de son nom de musicien Chris Men, qui est connu comme le rappeur breton, qui là se met au théâtre avec ce spectacle-là. On accompagne aussi le spectacle Debout de Frédéric Mingan, qui est une metteuse en scène rennaise, une compagnie qui s'appelle 13 dixièmes en ut, qui en est pas du tout à son premier projet, mais qui là a fait le choix de confier l'écriture à 9 autrices sur les luttes féministes des années 70, donc de la seconde vague. Et donc le spectacle jouera en mars à La Paillette avec 3 de ces textes-là, et puis l'avenir permettra de monter les autres textes. C'est 2 exemples, par exemple, là, qu'on accompagne cette année. Et puis le reste, vous pouvez les retrouver. Ah si, il y a Terre Noire aussi, que vous pouvez retrouver dans la saison cette année, de Gueltas Chauviré, qui est une compagnie rennaise, la compagnie Felmur, et qui nous parle d'un combat d'un agriculteur contre les industries phytosanitaires qui cherchent à racheter les terres et vendre leurs semences et mettre la mainmise sur leurs terres agricoles. Donc ils sont venus répéter la semaine dernière. J'ai pu voir une étape de travail, une sortie de résidence, comme on dit. Et puis ils joueront les 1er et 2 avril à La Paillette. Voilà.
Donc des spectacles tous un peu en lien avec l'actualité aussi.
C'est ça.
Comme on peut voir. Donc juste pour comprendre un peu plus cette programmation, comment elle se construit ? Qu'est-ce qui guide vos choix artistiques ?
Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que je sais y répondre ? Qu'est-ce qui guide nos choix artistiques ? Souvent, il y a ce qui nous attire à un moment donné, il y a de quoi ça parle, le sujet, le parcours de la compagnie, la forme. Donc tout ça, c'est un peu des axes qu'on essaye d'analyser quand on lit un projet, une brochure de spectacle. C'est un peu ça qui nous guide dans pourquoi on va voir tel spectacle ou pourquoi on accompagne tel projet. Et puis après, dans une programmation, il y a aussi tout un jeu d'équilibre entre une accessibilité à certaines tranches d'âge, des formes, c'est-à-dire ne pas avoir que du théâtre de texte, mais aussi proposer des formes un peu plus hybrides, du théâtre de la marionnette, du théâtre d'objet. Là, pour Bastard, par exemple, on a aussi pas mal de sonorités musicales. Cette année, on a une belle saison avec tous les spectacles quasiment ont un lien fort à la musique. Il y a le spectacle aussi Sans faire de bruit, qui a un lien très particulier où tout le texte est diffusé et la comédienne joue le spectacle en lipstick un peu. Voilà, donc c'est une forme particulière aussi. Voilà, c'est un peu ça qui nous guide d'avoir un équilibre entre les différentes propositions, que ce soit un peu diversifié et éclectique.
Est-ce que vous cherchez à défendre certaines thématiques ou certaines formes artistiques ?
Alors, nous, on est vraiment sur le théâtre en termes de forme artistique, donc le théâtre dans sa diversité. Et sur la question des thématiques, c'est assez large parce que les thématiques qui agitent les sujets ou les questions qui agitent notre société contemporaine sont larges. Donc, on n'a pas d'axe particulier. Ce qui peut nous guider un petit peu plus, c'est que depuis 3 ans maintenant, pour les ateliers de pratique amateur, on a une thématique annuelle. Donc cette année, par exemple, c'est la thématique Outre-mer. Donc tous les ateliers de pratique amateur travaillent autour d'auteurs, autrices ou de sujets ultramarins. Et donc forcément, ça influe aussi, nous, notre regard sur... ce qu'on peut voir en termes de programmation. Alors cette année, il n'y a rien autour de l'Outre-mer, mais la saison prochaine, il y aura sans doute des choses. Voilà, ça influe un petit peu. L'année dernière, on était sur la fabrique du mensonge, ou l'année d'avant, le sport à tout prix. Et c'est vrai que, d'un coup, on se dit « Ah tiens, ça peut être en résonance aussi avec la thématique des ateliers ». Du coup, ça aiguise un peu le regard à ces endroits-là.
Et pour revenir un peu plus sur donc la saison 2026, aujourd'hui et demain soir à 20h a lieu une enquête intime et universelle dont vous avez parlé tout à l'heure, Bastard,
oui.
Par Christophe Lemaine. Pourquoi avoir programmé ce solo qui mélange rap, chambreton et électro?
Alors, nous, on connaissait la compagnie Théâtre Piba, donc, qui est implantée à Brest. On avait déjà accueilli un spectacle il y a 2 ans qui s'appelait Nos Voies Lactées. Donc, on était déjà attentifs à leur travail. Et en fait, quand ils nous ont parlé de ce projet Bastard, il y avait plusieurs choses qui nous interrogeaient, enfin, qui nous interpellaient. Le sujet, déjà, donc l'histoire qui est une histoire presque autobiographique, en tout cas, c'est l'enquête de Christophe Lemaine qui est né sans père connu. Et puis, il a mené des ateliers dans des EHPAD. Et un jour, quelqu'un lui a dit « Mais en fait, je sais qui est ton père. » Et de là est partie une enquête. Lui, il est breton, bretonnant. Il parle breton. La compagnie Théâtre Piba travaille beaucoup sur les langues régionales et minoritaires. Et donc, du coup, ce spectacle a été porté par cette compagnie-là. Ils ont travaillé ensemble. Il y a des sonorités bretonnes. Alors, le spectacle, il se joue à la paillette en français, mais il se joue aussi en breton. Il y a aussi une version bretonne. Donc, nous, on n'a pas un public suffisamment bretonnant, je dirais, pour pouvoir accueillir cette version-là. Mais en tout cas, elle existe. Et puis, comme ils travaillent aussi sur les langues minoritaires, une partie du travail d'écriture a eu lieu en Laponie, donc le spectacle nous emmène jusqu'en Laponie aussi, puisqu'il a mené son enquête jusque ces terres lointaines. Voilà, et donc forcément, le travail de Christophe Lemaine, de Chrismaine, pardon, en tant que chanteur, influe sur l'écriture et de ce texte-là. Donc, il y a un flow. Alors, il n'y aura pas de rap au plateau, mais il y a un flow qui est là, enfin, qui lui est propre et qui lui est singulier.
Et donc aussi au cours de ce mois de janvier, le 29 janvier à 19h, vous proposez Le Mensonge. Donc c'est un spectacle jeune public autour de la vérité et du mensonge. Et pourquoi choisir des œuvres destinées au jeune public? Comment ça s'organise?
Alors nous, on propose aussi des spectacles à destination du jeune public. Là, ce spectacle-là, on le programme dans le cadre du festival Waterproof, qui est un festival... de danse. Et donc, pour ce festival-là, dans ce cadre-là, on choisit toujours un spectacle qui est à l'intersection de la danse et du théâtre. Et donc, Le Mensonge, c'est un spectacle de Catherine Dreyfus qui met en scène et en danse et en texte un album jeunesse qui s'appelle Le Mensonge, et c'est l'histoire d'une petite fille qui un jour ment à ses parents, un petit mensonge, et puis comment ce mensonge va inconsciemment prendre de plus en plus de place jusqu'à envahir tout l'espace et tout l'espace mental de cette petite fille jusqu'à ce que ça explose un jour pour elle. Et donc, dans l'album Jeunesse, il est symbolisé par un rond rouge qui grossit, 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 grossit. Et donc, dans le spectacle, on retrouve tous ces éléments-là. Donc, il y a à la fois du texte, de la danse et quelque chose de très, très visuel. Et donc, ça, c'est aussi une spécificité pour le spectacle jeune public, souvent, où on essaye de mêler un peu les différents médiums, je dirais, et puis quelque chose de très visuel. Voilà. Et puis l'idée, c'est aussi qu'il y ait une accessibilité pour tous et toutes du théâtre. C'est pas forcément facile de pousser les portes d'un théâtre. Donc c'est bien si ça peut démarrer dès l'enfance, accompagné par les parents. Et après, ça peut, enfin, en tout cas, ce spectacle-là, Le Mensonge, il peut aussi être vu sans être accompagné d'enfants. Il n'y a pas de souci.
C'est accessible à tout le monde.
C'est accessible à tout le monde.
Et La Paillette, ce sont aussi de nombreux stages. Donc, quels stages pouvons-nous retrouver en cette saison 2026 ?
Oui, alors là, effectivement, avec le mois de janvier, on démarre la période des stages. On a un stage lecture à voix haute qui va bientôt avoir lieu le week-end du 25, si je ne me trompe pas. On a avec Frédéric Mingan, qui est la metteuse en scène dont je parlais tout à l'heure, de Debout. On a aussi un stage illustration avec Françoise Soutif, qui est, bon, aquarelle, qui est malheureusement déjà complet. Et puis, je vais faire un petit focus peut-être sur le stage qui a lieu qui commence début février, qui a lieu sur 3 week-ends, qui est un stage, alors que nous, on surnomme le stage Touloulou. Le Touloulou, c'est un personnage de carnaval, et l'idée, c'est de créer son personnage carnavalesque de Touloulou. Donc, c'est un personnage masqué, peut-être vous voyez, avec un masque blanc et des grandes robes, et qui est un personnage qui nous vient de Guyane. Et donc l'idée est de confectionner son costume, son personnage, de créer une petite performance et qui sera visible et pendant le carnaval de Rennes, et donc qui est une petite performance et une participation au défilé du carnaval. Donc voilà, c'est notre petite touche guyanaise cette année de stage de Touloulou, et je pense que ça va être un stage assez chouette et haut en couleur pendant 3 week-ends.
Et aussi, La Paillette, c'est des actions culturelles, donc avec des projets comme Aventuriou Télémaque, j'espère que je l'ai bien prononcé.
J'espère.
Et aussi le théâtre en action. Du coup, comment ces ateliers et ces projets participatifs s'inscrivent dans l'identité de La Paillette ?
Oui, alors effectivement, on a une forte activité autour des actions culturelles et ce qu'on appelle de l'EAC, l'éducation artistique et culturelle. Donc, c'est des projets qu'on mène en partenariat avec souvent des écoles ou des structures plutôt à vocation sociale. Pour le stage dont tu parles, pour l'activité dont tu parlais, l'atelier dont tu parlais tout à l'heure, il est encadré par Maëlle Diraison, qui est aussi intervenant théâtre à La Paillette pour les adolescents. Et en fait, lui, il s'intéresse, il est bretonnant, il parle breton, et il s'intéresse au théâtre contemporain en breton. Donc, c'est un stage à destination, enfin, c'est un atelier, un projet participatif à destination des enfants qui sont qui suivent des cours de breton et avec leur école, et donc ils font tout le stage en breton. Et elle a traduit un texte de théâtre français en breton spécifiquement pour ces enfants-là et ce projet-là. Donc voilà, c'est l'accessibilité à la langue bretonne, aux langues régionales par le théâtre.
Et cette année, il y a une nouveauté à La Paillette, le festival Média Indé, qui aura lieu le 11 et 12 avril. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Oui.
Comment s'inscrit la logique de ce festival ?
Alors oui, effectivement, nous on est plutôt estampillé théâtre, et puis là, on sort un festival des médias indés. Non, ça nous paraît important aussi de faire un petit pas de côté par les temps actuels, je dirais, et de se dire que comment on a accès à l'information, parce que comme je disais tout à l'heure, au niveau du théâtre, on est sur des sujets d'actualité, je dirais presque. Donc là, c'est aussi de donner la voix au journalisme indépendant. Pendant ces 2 jours, on va retrouver une cinquantaine de médias indépendants et de réseaux qui vont proposer à la fois un salon pour se présenter, mais aussi des tables rondes et des discussions autour de qu'est-ce que c'est qu'être un média indépendant, pourquoi c'est important d'avoir des médias indépendants aujourd'hui, à l'heure presque des groupes qui rachètent, enfin pas presque, c'est le cas, des groupes qui rachètent les médias aujourd'hui. Et puis on a quelques petites élections importantes là, je crois, qui nous arrivent, donc c'est
pas
bien
très
aussi,
sûr, hein.
C'est bien aussi d'avoir d'autres accès aux informations. Donc voilà, la programmation n'est pas encore sortie puisqu'on est en train de finaliser, là dans les semaines qui viennent, il va y avoir pas mal d'informations sur le site de La Paillette, faut pas hésiter à se renseigner. En tout cas voilà, il y aura une quarantaine de rencontres et de discussions autour des médias indés à La Paillette.
Donc je vous invite à suivre ce festival. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Aude Chalamel du Rosier pour cette interview.
Merci.
Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations de la programmation?
Oui, alors vous pouvez aller sur notre site internet lapaillette.net ou alors on a des plaquettes, des flyers qui circulent dans les bars, dans les espaces culturels, dans les médiathèques. Faut pas hésiter à regarder un visuel bleu avec des petits personnages qui représentent la saison. Faut pas hésiter à choper ça et puis aussi sur le Facebook et Instagram bien sûr.
Merci.
Merci.
6 heures avant minuit.
Garde à vous, chère auditrice, pavé dans la sauce avec cette nouvelle chronique de CES.
Douce et terrible période que celle de ce début d'année. D'un côté de la balance, il y a la traditionnelle pâtisserie de janvier, luisante de beurre et riche d'amandes. Et de l'autre, il y a toutes les bonnes résolutions à base de kilos à perdre et de régime à faire. Toujours un bonheur de se poser 1000 questions, non pas sur la cachette de la fève, mais sur le regard des autres au moment de servir une part de galette, tout en entendant vos convives avoir pour rêve absolu de ne pas vous ressembler. N'est-ce pas Frédéric Lormet ?
C'est factuel et fastoche, les gens cons sont moches, alors que les sveltes sont bons et honnêtes, intègres et gentils, tel Rachida Dati.
Ce soir, je voulais vous parler de la diet culture, cet ensemble de croyances promouvant la minceur comme idéal de vertu et de santé, sans considération pour la réalité scientifique et sociologique. La diet culture, c'est le couperet de l'IMC, qui ignore la diversité naturelle des corps, les facteurs génétiques et socio-environnementaux. Par exemple, l'IMC s'en cogne de l'impact de l'organisation des villes et des politiques de transport en commun sur votre capacité à bien vous alimenter. En 2023, l'association VRAC, vers un réseau d'achat en commun, publiait une enquête sur la dégradation de l'accès à l'alimentation dans les quartiers populaires de 12 grandes villes françaises, dont Rennes. 15% des personnes interrogées ont déclaré ne pas pouvoir accéder à leur lieu d'achat à pied ou en transport en commun, impactant directement les choix d'alimentation de ceux-ci.
C'est pas ça. Docteur Boss que vous a mis à la diète, tant mieux, ça fait des économies.
La diète culture, c'est aussi la culture des régimes, qui se masque désormais derrière le terme beaucoup plus sexy de rééquilibrage alimentaire. C'est aussi les traitements magiques qui exploitent la haine des corps gros pour engraisser une industrie bien cynique. Cette année 2025, la lutte contre l'obésité s'est équipée en armes lourdes avec les analogues de GLP-1, ces solutions injectables censées réguler l'appétit. Ozempic, Wegovy et autres Mounjaro ont quitté les laboratoires privés et ont envahi les médias et les cabinets médicaux de leurs promesses miraculeuses. Des traitements qui présentent parmi leurs effets secondaires graves, nausées, carences, perte de masse musculaire, pancréatite aiguë, troubles digestifs et décès. Au Royaume-Uni, la Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency estime qu'1,5 million de la population utilise ces traitements anti-obésité et a reçu plusieurs milliers de signalements d'effets indésirables, avec plusieurs dizaines de décès potentiellement liés à l'usage de ces traitements, qui par ailleurs n'auront les effets désirés qu'à court terme.
C'est un régime pour maigrir.
Bah oui, mais faut pas tout arrêter d'un coup, sinon c'est un régime pour mourir.
Si la Fédération de lutte contre la grossophobie propose dans sa tribune de décembre dernier de remplacer « Comment lutter contre l'obésité et faire maigrir les personnes grosses » par « Comment améliorer la santé de toutes les personnes, quelle que soit leur corpulence », j'ai à mon tour une proposition à vous faire pour vos résolutions de janvier. Foutez-vous la paix, foutez-nous la paix. Faites faire une petite cure détox à vos algorithmes de toute plateforme en introduisant une diversité de corps et de vécu, et tonifiez votre empathie pour qu'elle ne soit plus conditionnée par la vue d'un bourrelet.
If my body is a vessel, I will give it what it needs. I will not betray my body, no matter what they think of me. There's nothing wrong with my body, fat is not a dirty word. If my body tells me something, I will make sure it is heard. If my body is a vessel, I will give it what it needs. I will not betray my body, no matter what they think of me.
Et si vous voulez creuser la question en local, nous vous renvoyons vers Gros Amour, collectif rennais de lutte contre la grossophobie. Merci Cesse. En attendant, moi je vais aller écouter mon répondeur. Tic.
Le téléphone.
Allô, allô.
Syllabe,
La radio sauvage.
Le répondeur est vide ce soir, sniff sniff, mais si vous avez des retours à nous faire, par exemple sur la chronique qu'on vient d'entendre ou sur notre interview ou tout autre sujet, n'hésitez pas, on vous écoute au 02 30 96 25 35. Vous pouvez laisser un petit message, ça peut être anonyme, il n'y a aucun souci et nous on le diffuse à la place de cette jolie annonce à la fin de l'émission. Merci Timothée pour la technique et à lundi dans 6 heures avant minuit.
J-24 avant les 30 ans de la radio Syllab.
Radio Campus Rennes, 88.4.
C'est festif.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.